Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir fait le déplacement pour cette rencontre autour de l'actualité des ciné. Alors avant de vous laisser en deuxième partie de soirée avec les rédacteurs et les rédactrices en chef des revues invitées ce soir, je vous demande d'applaudir Blanche Sabat et Sonia Deschamps qui animera cette rencontre. Bonne soirée.
Michel André, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Blanche.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et effectivement, ce soir, en deux temps, on va parler de bande dessinée, d'actualité, de la façon dont la bande dessinée rend compte du réel, l'interroge, l'éclaire. Blanche, vous êtes l'autrice de bande, vous êtes autrice de bande dessinée et activiste féministe. On vous connaît sur Instagram sous le pseudo La Nuit Remue Paris. Et ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on va voir à l'écran, ce sont les couvertures des deux tomes de Mythe et Meuf publiés chez Dargo. Et vous avez publié au mois d'août dernier avec Sandrine Mirza une histoire de France au féminin chez Casterman. Alors, on va parler de ces titres, évidemment, de l'importance de raconter l'histoire autrement. Autrement que comme elle nous a été racontée précisément. Et on va parler également des strips d'actualité que vous postez sur les réseaux. Mais avant cela, peut-être un mot pour celles et ceux, rares à n'en pas douter, qui ne vous connaissent pas encore, de votre entrée peut-être dans le militantisme, du déclic féministe dont vous parlez parfois, et surtout en fait de la façon dont vous avez fait du dessin, de la bande dessinée, un outil supplémentaire dans vos luttes, supplémentaire car ce n'est évidemment pas votre seule façon de vous engager. Voilà, comment est-ce que ces différents temps sont arrivés et comment est-ce que vous êtes devenue l'autrice qu'on connaît aujourd'hui ?
Assez graduellement, en fait. Moi, je pense pas qu'on ait un déclic soudain et qu'on passe d'une ignorance totale à une espèce de lucidité totale sur les oppressions qu'on subit et qu'on est aussi susceptible de perpétrer sur autrui. Pour moi, il y en a eu plein, en fait, des petits déclics, et ma vision n'a pas arrêté de s'améliorer au fur et à mesure des années. Ça a été très graduel, en fait. Moi, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème assez tôt quand j'ai été confrontée au harcèlement de rue. On m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup saoulée pendant ma scolarité, alors que j'ai fait toute ma scolarité dans le public, sur comment je m'habillais. C'est aussi pour ça que quand il y a eu le mouvement du lundi 14 septembre, les jeunes lycéennes, collégiennes, étudiantes, étudiants-étudiantes d'ailleurs, qui revendiquaient de pouvoir s'habiller comme ils et elles le voulaient, crop top, abaya, même combat, je les ai beaucoup, beaucoup soutenues parce que ça faisait écho aussi à mon vécu, où en fait on trouvait que mes shorts étaient trop courts, mes décolletés étaient trop décolletés, et on m'a privée d'une matinée de cours quand j'étais en quatrième, donc j'avais 13 ans, j'étais à peine pubère quoi, et on m'a dit que les trous dans mon jean, qui étaient au niveau du genou, allaient déconcentrer les garçons, et qu'on pouvait pas me laisser déconcentrer les garçons, donc moi, on allait me sacrifier une matinée d'études pour pas que eux potentiellement soient déconcentrés par le fait que je montrais un tout petit peu trop de ma peau. Ça, c'est un événement qui a été super marquant. Et ensuite, j'ai pas arrêté d'affiner ma pensée. Il y a eu plein d'étapes très importantes. La lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir que mon papa m'a offert pour mes 18 ans. Super cadeau de 18 ans. Il y a eu l'Erasmus à Madrid, la découverte du féminisme espagnol. Un 8 mars, toute seule à Madrid, où en fait, j'ai cessé d'être seule immédiatement quand j'ai commencé à faire partie de la manif, parce qu'il y avait une sororité tellement énorme, tellement communicative, que c'est devenu un énorme moment collectif de joie et de lutte. La découverte de la désobéissance civile, les collèges contre les féminicides que j'ai rejoint en septembre-octobre 2019, et avec lesquels j'ai continué de coller pendant 2 ans. Donc voilà, ça c'est toutes mes étapes en fait de ma progression militante. Et en fait le dessin, ça s'est fait en même temps. Donc j'ai toujours dessiné, j'ai toujours utilisé ce support pour parler de ce qui me traversait, de ce qui me remuait, de ce qui me bousculait. C'est ma manière de processer ce qui m'arrive, ce que j'ai envie d'analyser, ce que j'ai du mal à comprendre, ce qui me bouscule. Et en fait, mettre en scène mon militantisme pour ensuite aborder des sujets de société, c'est ça qui a eu un écho sur mon compte Instagram. C'est ça qui a attiré des éditeurs vers moi. Ils se sont dit que j'avais quelque chose à dire et qu'ils aimaient bien ma manière de vulgariser des concepts. Ça faisait écho aux études que je faisais en histoire de l'art, en sociologie, où je trouvais que j'étais au contact de beaucoup de savoirs que je trouvais fascinants, et je trouvais que ce savoir circulait pas assez. Donc j'avais envie de le démocratiser, envie de le partager. Et puis j'avais pris confiance aussi en mon propos au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que En étant en master 2 de sociaux, je me sentais apte à aborder certains sujets, certains concepts parfois un peu ardus. Et en fait, il y avait une légitimité supplémentaire aussi par l'écho qu'a rencontré mon travail sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avoir une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés qui enflent chaque semaine, ça donne aussi une certaine assise.
Et vous leur demandiez aussi quel sujet ils voulaient voir traiter. C'est-à-dire c'était une vraie communication aussi. C'était pas uniquement de se dire, ben voilà, je vais démocratiser le savoir et je vais partager avec les personnes qui me suivent, c'est aussi comment est-ce que vous vous nourrissez des commentaires des gens et des demandes de savoir là où ça se jouait.
Complètement, c'est pas un truc forcément magistral, surplombant, moi je partage ce que je sais, mais j'ai appris aussi énormément de ma communauté, et je pense que le terme communauté est vraiment le bon, quoi. C'est pas juste voilà, des fans qui suivent mon travail et qui boivent mes paroles, c'est vraiment une communauté de personnes qui réfléchit ensemble, qui me fait des retours souvent extrêmement riches, des gens qui me conseils, qui me disent « Ah mais attends, quand j'ai lu ton épisode de Mythes et Meufs sur Circé, eh ben j'ai pensé, est-ce que t'as lu Madeleine Miller? Est-ce que t'as regardé ce documentaire sur Arte? Est-ce qu'il y a cet épisode de podcast qui s'appelle Faire Justice, qui serait hyper intéressant pour parler de l'impunité ?» Voilà, en fait, on fait une espèce de brainstorming continu dans cette communauté, et ça aussi, ça m'a énormément apporté.
Mais vous le disiez, il y avait quelque chose de spontané dans le fait de dessiner tout ça et de le partager avec d'autres personnes. Et il y a eu d'un seul coup cette communauté, ces personnes qui vous suivaient, qui ont été de plus en plus nombreuses. Mais qu'est-ce qu'avec le recul, vous vous dites qu'apporte vraiment la bande dessinée, le dessin ? Est-ce que c'est justement le fait que bah, peut-être qu'au départ, il y avait des gens qui vous suivaient pour votre engagement, mais finalement, les uns et les autres partageant, il y a le côté, malgré tout, facile de la bande dessinée, et on peut regarder en se disant « Ah bah tiens, je suis séduit par le dessin, par exemple, et qui après amène sur votre compte. » Il y a vraiment ça, cette idée de la démocratisation, et au-delà de la démocratisation, une éducation sans en avoir l'air aussi, pour certaines et certains.
Bah, il y a plein d'avantages à la bande dessinée et au support visuel, en fait. Et c'est juste qu'Instagram, c'est une plateforme de l'image. Il y a des plateformes qui sont... déjà, il y a des plateformes qui sont polies, un peu artistiques, mais il y a quand même certaines plateformes qui ont leur domaine de prédilection. Twitter, c'est l'écrit. Instagram, c'est l'image. TikTok, c'est la vidéo. Voilà. Et Insta, c'est un peu le support tout désigné pour la bande dessinée. D'autant que, il y a ce petit truc, je sais pas si quand vous lisez des BD, ça vous fait ça aussi, ou quand on est dans un suspense, haletant, on doit un peu se faire violence pour pas aller tout de suite au bas de la page et voir comment ça se termine. C'est un truc qu'on peut moins facilement faire dans les romans et pas faire du tout au cinéma. On est un peu pris en otage par l'image. Et Instagram a ceci de chouette qu'avec ces slides qu'on fait défiler, on peut pas se gâcher le suspense. Et donc du coup, il y a toute une nouvelle forme de narration vraiment appuyée sur le décalage de quand et comment on donne les informations qui s'est créée sur Instagram. Il y a une autre autrice que j'aime beaucoup qui signe ses BD, Jtam, sur Instagram, qui maîtrise à merveille la dilution de l'information avec le swipe et qui ménage très bien son suspense et ses chutes. Donc moi, j'essayais aussi de me servir de cet outil-là. Et en fait... La bande dessinée, je me suis pas posé stratégiquement la question de comment est-ce que je pourrais rendre mon contenu plus accessible grâce à la BD, c'est parce que je suis passionnée de dessin, que j'ai eu envie de dessiner à la base. Pour autant, je trouve qu'il y a un niveau de lecture supplémentaire en fait avec l'image, et que parfois il faut vraiment des nuances et des circonvolutions et des explications qui sont très longues, qui peuvent être très bavardes, alors qu'avec avec l'aide de l'image, on peut agencer texte et dessin d'une manière qui rende compréhensible et ludique des choses peut-être difficiles à appréhender par d'autres supports. Donc il y a un vrai côté populaire à la bande dessinée, et d'autant plus quand c'est de la bande dessinée sur les réseaux sociaux, qui est un support populaire par excellence.
Mais je reviens sur ce que vous disiez, sur le fait qu'il y avait des échanges. Je trouve aussi qu'avec Instagram, avec ces strips, quelque part, vous donnez aux lectrices et aux lecteurs qui, tout en pressentant certaines choses, ou même en ayant très directement conscience des mécanismes à l'œuvre, ils n'ont pas forcément les mots, on n'a pas forcément les mots. Je pense notamment à ce que vous avez dit récemment, d'ailleurs, sur le plateau de Quotidien, et vous avez fait un strip à ce sujet sur le fait qu'on accuse tout le temps les féministes d'être trop, et que peut-être que dans 20 ans, on dira que les féministes de 2024, elles, c'était des bonnes féministes, mais qu'en 2044, là, elles sont trop. Et quand je vous écoutais et quand je vous lisais, je me disais, moi, c'est quelque chose, c'est une chose dont j'avais... J'ai le sentiment que j'en avais conscience, mais j'aurais pas réussi à mettre les mots. Et quelque part, ça donne des outils pour pouvoir aussi, autour de soi, partager tout ça.
Ouais, c'est un compliment, merci. C'est un compliment que je reçois beaucoup. C'est vraiment un retour que j'ai très souvent de dire « t'as mis des mots sur ce que j'arrivais pas à formuler et grâce à ça, ça devient exactement ce que t'as dit. Un outil pour m'aider à argumenter et pour m'aider à trouver les bons mots, les bonnes métaphores, les bons exemples pour essayer de propager ces idées-là à des gens qui sont pas forcément convaincus, qui sont un peu sceptiques. Et ma première BD, Nos Mutineries, avec Eve Cambrelin, c'était vraiment dans cette idée-là qu'on l'a faite. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les remarques qu'on en avait marre d'entendre, qu'on en avait marre de traiter en se répétant pour en faire des chapitres et pour que vraiment la BD circule et devienne une vraie béquille dans les débats, quoi.
Mais on le disait, il y a de plus en plus de personnes qui vous suivent. Vous dites c'est des encouragements tout le temps, enfin, ce sont des échanges. Mais il y a aussi un revers à la médaille, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est aussi pas forcément des personnes qui sont d'accord avec soi, des personnes qui peuvent être violentes dans leurs mots, puisqu'on est en ligne, donc ce ne sont que des mots. Mais comment est-ce que vous gérez tout ça? J'en parlais récemment avec Rose Lamy, qui a le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui racontait que voilà, elle avait reçu beaucoup de menaces de mort, de menaces de viol, qu'il y avait beaucoup d'agressions de ce type, et qu'elle réussissait maintenant à se dire je fais pas attention. Mais j'imagine que ça ne peut pas ne pas faire peur d'une part et ne pas blesser profondément. Comment est-ce qu'on réussit à se dire mais non, c'est trop important et je vais surtout pas me laisser déstabiliser par ça et il faut continuer?
Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs mécanismes qui m'ont énormément aidée, parce qu'au début ça m'affectait beaucoup et maintenant ça m'affecte quasi plus du tout. Et bon, ça dépend de l'intensité, hein. Il y a très peu de posts, mais il y en a quelques-uns sur mon compte où les commentaires sont désactivés et je fais ça qu'en dernier recours parce que l'algorithme étant ce qu'il est, si on désactive les commentaires d'une publication, elle devient quasi invisible, elle est complètement masquée parce que évidemment que la plateforme a envie qu'on échange, donc je le fais vraiment qu'en dernier recours quand les commentaires deviennent trop violents. Donc ça arrive encore que ça m'affecte, mais vraiment pas du tout dans les mêmes proportions qu'au tout début quand je lançais mon compte. Alors déjà, il y a un truc tout bête, c'est qu'on s'habitue, malheureusement, quand ça devient un peu systématique. Et on s'habitue à tel point que je peux prévoir ce que les gens vont dire. Et ça aussi, c'est un truc un tout petit peu rassurant, c'est qu'il y a un tel manque d'originalité dans les remarques que je reçois. C'est tellement tout le temps les mêmes. Tellement, et entre féministes, en plus, on se passe le mot aussi en disant « Ah oui, toi aussi, t'as dit ça, ah oui, nanana. » On dessert la cause, on a le physique de nos idées. Ils croient qu'ils ont inventé la punchline, quoi. Ça me fait trop rire. Ils redécouvrent un petit truc mesquin alors qu'ils savent pas que sur 15 posts précédents, un mec s'est cru malin en disant la même chose. Donc voilà, la permanence, en fait, de ces insultes et la pauvreté des arguments qui sont sans cesse répétés a quelque chose, en fait, de très banal au bout d'un moment. Donc il y a ça. Il y a une technique super efficace que je recommande beaucoup, c'est de conserver des cercles en physique où on se sent bien, où on peut décompresser, parce que, en fait, la parole en ligne, elle est obsédante, parce qu'elle ne s'arrête jamais. Les notifications, on les reçoit en permanence sur notre téléphone et on a beau désactiver, couper, etc. On reçoit toujours en fait ces trucs. Et donc du coup, ça nous quitte jamais, c'est tout le temps, c'est le soir, on dort pas la nuit, on commence à regarder au-delà de notre épaule parce qu'on se dit putain, peut-être que dans ma dernière story, j'ai un peu trop laissé entendre où je descendais dans ma station de métro. Et donc ça, c'est très flippant. Alors que la plupart des gens qui disent des horreurs sur Internet ne passeront jamais à l'acte, en fait. Mais c'est juste que nous, on n'a aucun moyen de le savoir. C'est extrêmement flippant et c'est extrêmement angoissant. Et donc, du coup, avoir du concret, du réel, pour désamorcer cette angoisse qui est immatérielle, c'est super important. Donc, voilà, cultiver des amitiés à qui on peut parler de ce genre de choses, cultiver des petits espaces safe, en non-mixité ou en mixité choisie, prendre soin, en fait, en physique de ça et ne pas avoir son cercle de soutien essentiellement en numérique et essentiellement virtuel, parce que ça a vite ses limites. Et après, il y a aussi un truc qui est hyper important et qu'on dit jamais, c'est que quand on est féministe sur les réseaux et qu'on est un petit peu médiatisé, on reçoit énormément de haine, mais on reçoit en écrasante majorité, mais vraiment, je pèse mes mots, c'est peut-être 1 pour 1000, énormément de soutien. Et en fait, moi, ce qui me permet de me dire que c'est important de continuer, c'est toutes les meufs qui disent « s'il te plaît, continue, s'il te plaît, ça me fait trop du bien, j'ai réussi à faire changer d'avis telle personne, j'utilise ton contenu, je reçois maintenant de plus en plus avec les publications papier. Ce qui change, c'est que j'atteins d'autres générations que celles qui sont la mienne, qui est beaucoup sur les réseaux. Et donc, il y a des mamans et il y a des toutes petites qui sont confrontées à mes idées via mes livres et qui m'écrivent. Donc, il y a beaucoup de mamans qui m'écrivent, beaucoup de profs qui m'écrivent, qui me disent « mais c'est super, derrière, ton support, il nous aide, on fait changer les choses dans nos classes. Quand l'éducation nationale va pas assez vite, bah, grâce à TBD, grâce à l'histoire de France au féminin, je reçois beaucoup de profs de français ou d'histoire qui me disent ça. Disons, ça nous donne les billes, en fait, ça nous donne les moyens d'aborder des sujets qui figurent pas dans le manuel un peu officiel. Ça me donne envie de continuer, parce que je me dis, ok, bah, c'est utile, ça sert, les mots positifs que je reçois surpassent très largement la haine. Et après, il y a un autre petit truc, mais j'ai pas du tout envie de m'étendre sur ce sujet, mais je prends aussi position sur des sujets qui sont encore plus clivants et encore plus violents que cela. Et malheureusement, depuis le 7 octobre, je reçois un degré de harcèlement d'une violence qui est tellement supérieure à tout ce que j'ai jamais vécu de tous les côtés, vraiment de tout le monde, que maintenant, quand on me saoule sur l'écriture inclusive, ça, c'est vraiment les vacances, quoi, vraiment. Quand j'ai fait mon post sur l'écriture inclusive ou sur les bonnes féministes, limite qu'on me traite d'hystérique, ça, c'était un petit truc réconfortant par rapport aux choses très, très explicites que j'ai pu recevoir en message privé. Et du coup, depuis le 7 octobre, je lis plus les messages de personnes qui ne sont pas abonnées à mon compte parce que ma boîte est en train de s'écrouler sous les messages. Parfois, il y en a des gentils que je ne vois pas, du coup, et parfois, il y en a des très méchants. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, d'apprivoiser, en fait, d'être confrontée à cette violence. Et puis, moi, je me considère très préservée aussi parce que je ne suis, entre guillemets, que sur Instagram. Jamais de la vie, je mettrais un orteil sur Twitter. Je trouve que le degré de violence là-bas est bien supérieur et j'admire beaucoup toutes les féministes. Et oui, et ça aussi, et après, je finis cette question, c'est que je commence à avoir de plus en plus d'amis qui sont, elles aussi, un peu médiatisées. Typiquement, Mathilde Caillard, MC Danse pour le Climat, que vous avez sans doute vu dans les manifs et à la télé, qui est avec moi à Alternative à Paris. Elle s'en est vraiment pris plein la figure au moment de la campagne contre la réforme des retraites. Et je l'ai beaucoup soutenue à ce moment-là, et elle me soutient aussi beaucoup maintenant. Pareil, Camille Etienne, elle m'écrit dès qu'elle voit que je me prends trop de... Parce qu'elle, elle sait ce que c'est, encore beaucoup plus fort que moi, parce qu'elle est beaucoup plus connue, de se prendre en fait de la violence. Pareil pour Rose Lamy. En fait, on s'apporte un soutien entre nous, parce qu'on se sait, et c'est fini de tout endurer et de faire bonne figure dans son coin. Il y a une vraie, vraie sororité à l'œuvre entre meufs qui subissent un petit peu le contre-coup de cette médiatisation. Et ça, c'est vraiment très important.
Et à contrario, vous dites c'est important d'avoir ces cercles-là, d'avoir des réunions en non-mixité, d'avoir des événements comme celui auquel on a participé. On était toutes les deux présentes au Pop Women Festival cette semaine et vous étiez présentes aussi dans un événement à Bordeaux dimanche, le Wow Festival. Mais justement, moi je me disais, quand on est dans ces événements-là, quand on regarde votre compte Instagram, quand on regarde à quel point les posts sont partagés, on peut se dire, waouh, ça avance tellement, il y a tellement de choses qui sont dites, de choses qui sont entendues, et quelque part, d'un seul coup, le fait parfois de se rendre compte qu'il y a quelque chose en dehors, c'est très violent aussi. Et dans au Pop Women Festival, on avait fait une rencontre et il y a une personne qui à la fin est intervenue pour dire, moi je suis ravie d'être là, j'ai l'impression justement qu'on se soutient, qu'il y a plein de choses qui sont dites, mais je sais aussi que quand je vais rentrer chez moi, réussir à faire entendre ça, ça va être compliqué. Et je voulais savoir comment est-ce que tu vivais ça. Est-ce que toi vous étiez optimiste par rapport à justement tous ces messages, toutes ces tonnes d'amour que vous recevez par rapport au fait que des personnes vous disent qu'elles réussissent à convaincre des gens autour d'elles, ou est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ce qu'est aussi la société, ce qu'elle reste, et il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin.
C'est un petit peu les deux, en fait, mais moi, je pense que avoir ces espaces, justement, en non-mixité, en mixité choisie, où on revendique de n'être qu'entre féministes, c'est Céline, hein, elle met des quotas, mais du coup...
Céline Bagot, donc Céline... la programmatrice du Pop Women Festival.
Exactement, qui dit qu'elle est à 80% d'artistes femmes et queer, et le reste d'hommes cis, en gros, et qu'elle se tient à cette éthique-là pour essayer de contrebalancer tous les autres événements culturels où ces chiffres sont complètement inversés. Et c'est pas l'effet, forcément, d'un quota, d'ailleurs. C'est un espèce d'entre-soi masculin qui est une espèce de norme partout ailleurs. Et en fait, moi, je pense pas qu'on soit dans un entre-soi où on perd le sens des réalités quand on est dans ces moments-là, parce que en fait, toutes, on est dans le monde réel. Et donc, en fait, toutes les personnes qui nous écoutent au Pop Women Festival et qui ensuite partent de la table ronde rentrent dans leur famille, rentrent dans leur salle de classe, dans leur quotidien qui est peuplé de gens qui n'étaient pas au Pop Women Festival. Et donc, en fait, ça permet d'avoir un espace loin d'interruptions ou de fausses politesses pour ne pas blesser les gens dont on parle. C'est-à-dire, souvent, on parle de la non-mixité comme quelque chose d'extrêmement nécessaire, parce que si on est entre opprimés et qu'on doit toujours calfeutrer nos mots pour ne pas blesser les oppresseurs qui sont parmi nous, on va nulle part. Et donc, en fait, il y a vraiment besoin de cet espace préservé pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir, ensemble, on discute, on est en 2080, et ensuite, on revient à la réalité, mais tout ce qu'on a dit, ça a pu exister, et ça peut exister nulle part ailleurs. Donc, il faut vraiment avoir ce moment-là, pour qu'ensuite, ça essaime sur toutes les personnes qui nous ont écoutées, qui ont participé à la discussion, et qu'ensuite, du coup, ça puisse se propager comme une bonne rumeur, un peu partout, quand tout le monde revient dans le monde réel, en fait. Et je vois la différence entre les rencontres mixtes et les rencontres non mixtes. Mais vraiment, il y a une des rencontres... Bah déjà, notre table ronde meuf, elle s'appelait comme ça, la meuf au pluriel, au Pop Women Festival, était non mixte. Déjà, on l'a remarqué immédiatement. De toute façon, ça se remarque. Hein. C'est comme quand les personnes racisées, elles remarquent tout de suite combien il y a de personnes racisées dans la salle. Bah, entre meufs, c'est pareil. Et j'ai fait une autre rencontre pendant ma tournée de dédicace de Mythes et Meufs et de l'Histoire de France à la librairie Durance à Nantes. Et c'était une de mes seules rencontres. On était un amphi entier, que de femmes. Et cette rencontre, elle est vraiment singulière par rapport aux autres. Bah, j'ai vu, en fait, à quel point on cessait de brider la parole quand on était entre nous. Et je sais qu'aller plus vite là, ça permet aussi d'aller plus vite dans le monde réel.
Mais justement, ces bandes dessinées, Mythes et Meufs, donc en bande dessinée publiée chez Dargaud, et on va parler évidemment de Matin, de la revue en ligne dans laquelle vous avez publié Mythes et Meufs en premier lieu, et l'Histoire de France que vous avez publiée également. Ce sont justement des outils qui permettent une diffusion aussi autre, vous le disiez, ça passe les salles de classe, ça permet aussi d'être offert. Et j'aimerais, parce que je vois que le temps passe très très vite, que vous nous parliez de ces deux projets qui sont différents évidemment, mais qui malgré tout sont dans cette idée de ce que je disais au tout début de cette rencontre, de comment est-ce qu'on raconte l'histoire autrement et comment est-ce que c'est important, aujourd'hui on parle d'actualité, mais d'éclairer cette actualité par un savoir de ce qui s'est passé dans le passé, par un savoir de ce que nos mythes véhiculent et comment est-ce qu'on les a entendus et comment est-ce qu'on pourrait les raconter autrement. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de comment est-ce que ce projet Mythes et Meufs est né et de ce que l'histoire de France telle que vous la racontez avec Sandrine Mirza permet d'éclairer différemment ?
Ben, c'est un petit peu les deux. Enfin, les deux, je vais répondre à la question parce que la réponse est la même pour les deux ouvrages. En fait, on est encore dans cette idée de gagner du temps. Parce que moi, j'avais vraiment l'intuition. Bon, déjà qu'il y avait une certaine forme de connaissance qui n'était pas assez partagée, et les livres, ça permet ça, et qu'on oubliait ce qu'on avait appris de nos prédécesseuses, et qu'en fait, on était complètement amnésique dans la lutte féministe, et qu'en fait, on était tout le temps en train de réinventer des trucs, de redécouvrir plutôt des choses qui avaient déjà été mises au jour précédemment. Et ça marche dans la fiction, et ça marche aussi dans la réalité. Et par exemple, là, le 8 mars, on parlait de grève féministe, je suis pas persuadée que tout le monde sache que l'invention du 8 mars découle des revendications du mouvement des ouvrières, à la base, et que du coup, c'est ancré dans la lutte sociale, déjà de base. Pareil, dans l'histoire de France au féminin, on met en avant que dans les grandes périodes de grands bouleversements sociaux et de lutte sociale, typiquement la Révolution française, ou le Front populaire, ou mai 68, et j'en oublie plein, la Commune de Paris aussi, en fait, les femmes avaient des revendications, les femmes se sont mobilisées, et leurs revendications n'ont jamais été écoutées par les milieux de gauche qui prétendaient pourtant porter un message universel. Alors même que, c'est Flora Tristan qui le remarque, les femmes étaient les premières concernées des enjeux dont s'étaient saisis ces grands mouvements sociaux. Les premières à subir de la violence, à être précaires, celles qui avaient les pires conditions en fait de travail, ajoutées à un travail domestique gratuit, non valorisé, associées au care des enfants, etc., c'était elles, et leurs revendications spécifiques à leurs conditions à elles n'ont pas du tout été écoutées. Et donc du coup, c'est important de savoir ça quand on parle de la grève du 8 mars. Et du coup, connaître ce dont on est les héritières, grâce à des livres comme celui que Sandrine a écrit et que j'ai dessiné, ça nous permet de gagner du temps. Ça nous permet justement de ne pas réinventer l'eau chaude tous les 10 ans. Et du coup, de pouvoir aller plus loin. On est encore dans cette idée de quand cette parole peut exister, on n'a pas besoin de revenir sur les bases pour ensuite pouvoir progresser, pouvoir inventer une société meilleure. Parce qu'enfin, ça y est, c'est gravé dans le marbre qu'on a déjà mis au jour certaines choses. Et pour Mythes et Meufs, c'est un petit peu pareil, mais dans la fiction. Et donc, c'est prendre conscience de certains ressorts narratifs qui véhiculent des clichés très éloignés de qui sont les femmes dans la réalité, mais qui modèlent pour autant notre réalité. Et c'est pareil, en fait, ça nous éduque aussi. Là, il y a un énorme bouleversement dans le milieu du cinéma. on voit partout la prise de parole de Judith Godrèche. Et en fait, il y a un lien, enfin, comment dire, il y a une relation qui est hyper poreuse entre réalité et fiction, même dans ce qu'elle dénonce, Judith Godrèche, parce que elle joue dans un film qui s'appelle La fille de 15 ans. Elle-même, elle a 15 ans et elle subit des abus de l'homme avec qui elle partage une relation à ce moment-là, du réalisateur. Et en fait, par son film, il légitime les abus qu'ils sont en train de perpétrer derrière la caméra. Et donc, du coup, en voyant ces films, on légitime aussi une certaine forme de violence, même si elle est supposément que fictionnelle, même si elle est que dans nos écrans. Et donc, du coup, moi, je voulais vraiment insister sur cette idée que nos mythes façonnent notre réalité, façonnent notre manière dont on va considérer les femmes, dont on va traiter les femmes et les minorités de genre. Et donc, du coup, peut-être qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus vigilant, vigilante au contenu qu'on consomme parce que on est éduqué à repérer des clés de lecture sexistes, racistes, classistes grâce à des livres, bon, un peu immodestement comme le mien, mais comme beaucoup d'autres livres aussi qui mettent en exergue cette relation.
Et j'imagine que là aussi, vous recevez de la part des personnes qui vous suivent sur les réseaux plein de propositions de mythes à raconter en bande dessinée.
Tout à fait. On me demande souvent si j'ai pensé à telle personne, si je pourrais pas m'intéresser à telle culture que j'ai pas encore traitée. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, tu pourrais faire... telle personne », et en fait j'en ai déjà parlé dans un épisode, c'est pas elle la star de mon épisode, mais je vais renvoyer par exemple, on m'a dit « Ah, tu devrais faire Pandore », et en fait Pandore j'en parle dans le mythe de Ève, parce qu'il y a une vraie parenté entre Pandore et Ève, elles franchissent toutes les deux une limite qu'elles doivent pas franchir, et en déchaînant en fait, en causant la chute de leur espèce, à cause de leur curiosité maladive, donc du coup c'était impossible de parler d'Ève sans renvoyer vers Pandore et vice versa. Donc parfois, il y a aussi plusieurs mythes en un.
Et un dernier mot, parce que je vois que le temps passe très très vite, mais pour revenir et boucler la boucle sur les posts, les strips que vous postez en réaction à l'actualité, quelle ligne est-ce que vous vous fixez ? À quel moment est-ce que vous vous dites « là, il faut que j'en fasse quelque chose » ? Est-ce que c'est quelque chose de très spontané, de réaction directe et de dessin et ensuite d'aller rechercher ? J'imagine aussi des informations quand il y a quelque chose qui vous interroge. Voilà, qu'est-ce qui vous décide à en faire un strip ?
En fait, c'est vraiment mes émotions. C'est vraiment quand il y a quelque chose où je me dis « ça, c'est scandaleux, ça, c'est pas possible ». Là, vraiment, c'est viscéral, il faut que je fasse quelque chose. Quand Macron a dit que Gérard Depardieu rendait fière la France, vraiment, ça m'a donné la nausée tellement j'étais révoltée. Et je me suis dit, en fait, là, il faut que les gens comprennent que c'est pas juste des mots. Que là, quand c'est le président qui le dit, c'est performatif, en fait. Il le dit... et ça devient vrai. Donc il faut vraiment que je mette l'accent sur voilà, c'est pas possible. Récemment, j'ai fait un post sur Gaza parce que je trouvais que c'était abominable ce qui se passait et j'en pouvais plus en fait d'être bombardée de ces images atroces et j'avais envie de secouer tout le monde et c'est trop horrible. Donc voilà, il y a ce truc vraiment trop viscéral, spontané qui me bouleverse. Et évidemment ce qui se passe dans l'actualité. Après, il y a aussi enfin, je fais la part des choses aussi entre ce que les... Parce qu'il y a beaucoup de paroles qui sont prises sur Instagram, il y a beaucoup de femmes et de minorités de genre qui traitent des sujets sur lesquels ils sont plus pertinents que moi. Donc, je ne vais pas faire un sujet sur tout ce qui me bouleverse non plus ou sur tout ce qui est d'actualité et tout ce qui est choquant parce qu'en fait, il y a des activistes qui s'en sortent très bien, qui sont plus pertinents, dont c'est le domaine d'études et ça me va très bien. Donc, honnêtement, je pense que pour ce qui est de mon compte Instagram, c'est vraiment spontané. C'est quand je sens qu'il faut faire quelque chose ou quand je sens que, ah, il y a un angle là, je sais que je l'ai vu nulle part. Quand j'avais fait mon post sur Balance ton bar, je voyais le mouvement en Belgique qui prenait grave de l'ampleur, qui parlait de soirées safe, etc. Et en fait, moi, quand j'étais un peu plus jeune, fin d'adolescence, tout début de vingtaine, je me suis beaucoup mise en danger en fait en buvant de manière complètement irresponsable et en étant confrontée à des situations où heureusement que des amis étaient là, sinon je pense que des mecs en auraient profité pour abuser de moi parce que j'étais pas du tout en état de consentir ou de signifier mon non-consentement. Et du coup, en fait, je m'étais déjà beaucoup interrogée sur ce truc de les entrées gratuites pour les meufs. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça encourage la prédation. Ça veut dire les hommes ont un portefeuille, ils vont venir parce qu'il y a de la chair fraîche. Et donc, ou ce truc aussi, ça m'avait révoltée. C'est une start-up qui m'avait contactée en plus, qui m'avait contactée par mail en disant « Oui, je suis une start-up, je vends des capuchons à mettre sur les verres des femmes. » En fait, les bars te font payer un capuchon en partenariat avec notre start-up pour que tu puisses mettre un petit couvercle sur ton verre quand tu achètes un cocktail pour pas que les gens mettent de la drogue dedans. Et j'étais là « Mais attends, En plus, je dois payer pour ne
c'est
pas
un peu
me
comme
faire
le
droguer.
Coup du jean.
Non, mais c'est hallucinant. C'est capitalisé sur notre mise en danger, quoi. Et donc, du coup, j'étais en mode, vous voulez pas plutôt genre légiférer dans vos bars et virer les violeurs que de nous faire payer un cocktail encore plus cher que les prix parisiens qui sont hors de prix pour peut-être pas se faire violer. Enfin, ça avait vraiment. Donc, on en revient sur le truc qui me révolte. Mais je pensais que j'avais aussi un angle que j'avais pas vu à apporter parce que, de fait, ça faisait écho à mon vécu et à des questionnements que j'avais déjà eu par le passé. Donc, voilà.
Merci infiniment, Blanche. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je ne sais pas s'il y a une question pour Blanche avant d'accueillir les rédactrices et rédacteurs en chef de Matin, Topo et la Revue Dessinée. Non ? Merci infiniment. Merci, Blanche, s'il y a une question, oui.
Pas vraiment. Il y a Instagram et mes livres. Il y a mes BD, du coup. Mité Meuf 1 et 2, l'histoire de France au féminin. C'est à peu près tout. Après, si tu vas sur YouTube, tu dois pouvoir retrouver des retranscriptions de mes interviews. Mais je passe sur France Inter, je passe sur Quotidien. Mais sinon, pour mes dessins, c'est vraiment principalement Instagram et en librairie.
Merci beaucoup,
merci.
Blanche. Merci infiniment. Et je vais t'inviter à céder la place à Baptiste Boutier, Laurence Frédé et Clotilde Palua. Et si on peut afficher à l'écran, comme ça, pendant que vous vous installez, on peut montrer aussi ce dont on était en train de parler avec Blanche. On aurait eu encore mille choses à dire sur... Mais Clotilde pourra nous en parler du passage au strip en ligne,
au livre,
où on peut voir justement immédiatement la fin. Et donc là, le strip dont je parlais tout à l'heure sur... Qu'est-ce qu'une bonne féministe ? On est une bonne féministe 20 ans plus tard et on est toujours trop extrême au moment où on vit dans notre contemporanéité. Hop. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Donc Baptiste Boutier, rédacteur en chef adjoint de la revue Dessinée, Laurence Frédé, rédactrice en chef de Topo, et Clotilde Palua, rédactrice en chef de Matin. Clotilde, Matin, c'est la plus jeune des trois revues. C'est un journal en ligne, tous les matins sur Instagram, sur le compte Matin Quel Journal, une BD pour parler écologie, philosophie, humour, histoire, féminisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter très rapidement, parce que là encore je sens que le temps va nous manquer, mais très rapidement les débuts de Matin ?
Alors Matin est né il y a 3 ans et demi, et Sonia vous étiez... parmi les toutes premières à être éditées sur Matin. Et je trouve que le hasard nous retrouve, nous rassemble ici. Matin, c'est la revue digitale de Dargaud, et dont le projet est très simple, en fait. Dargaud est une maison d'édition de bande dessinée qui est assise sur un héritage fort qui est celui de Pilote. Pilote était une revue papier qui paraissait toutes les semaines, entre 59 et 80, en gros. Ça a duré une trentaine d'années. Et qui a vu naître des auteurs, des autrices aussi emblématiques que René Pétillon, Moebius, des personnages comme Astérix et Obélix, Blueberry, Lucky Luke, etc., etc. Donc c'est vraiment une revue, un héritage très fort de Dargaud, et qui a eu plusieurs slogans. Le journal qui s'amuse à réfléchir en a été un, et un autre slogan a été « Matin, quel journal ?». Et donc Matin, avec un petit accent circonflexe sur le A, ça veut dire fiche, trop sapristi. Et on a joué avec l'homonymie avec le Matin pour publier tous les matins sur Matin un strip de bande dessinée pour s'amuser à réfléchir comme Pilote en son temps.
Et on va évidemment parler des autrices et auteurs que vous publiez, des autrices et auteurs qui publient seuls, des duos aussi que vous formez, comme le fait Topo et la revue Dessinée. On remonte le temps quelques instants pour revenir aux origines de la revue Dessinée. Alors, vous n'étiez pas encore de l'aventure, Baptiste, au moment de la sortie du premier numéro de la revue Dessinée. Mais est-ce que vous pouvez nous parler, au-delà de ses débuts, peut-être quand même quelques mots, mais de ce que les fondateurs de la revue avaient déjà comme préscience que la bande dessinée permettait d'appréhender le réel, de le raconter d'une manière qui pourrait permettre de toucher un plus grand nombre de personnes, ou en tout cas de le raconter, de l'interroger différemment.
Oui, la revue est née en 2013 et donc elle a émergé en tant qu'idée dans les cerveaux d'auteurs de bande dessinée en 2012-2013, qui ont eu cette intuition en fait effectivement en avance sur leur temps, même si ils n'ont pas inventé le journalisme dessiné. Il y a quelques exemples. Voilà, évidemment, il y a les grands historiques. Bon, évidemment, Art Spiegelman, mais même Josako, effectivement, voilà. Il y a déjà de la bande dessinée réelle, documentaire, journalistique avant ces années-là, mais il y en a très peu. C'est pas du tout un genre aussi développé qu'aujourd'hui, très loin que ça. Et donc, il y a des auteurs de bande dessinée qui ont cette intuition qui manque quelque chose à la bande dessinée et qui manque quelque chose au journalisme, et que ce qui manque est à l'intersection des deux. C'est de faire une revue qui va faire de l'information en bande dessinée, en associant des journalistes et des dessinateurs, des auteurs ou des autrices de bande dessinée, et que du coup, chacun faisant sa spécialité, ce qu'il sait faire au quotidien, se nourrissant l'un l'autre, on va pouvoir proposer cet objet nouveau, informer en bande dessinée, faire du reportage, de l'enquête en bande dessinée, et du coup aller trouver un public peut-être différent, qui s'informe peut-être pas avec des sujets comme ceux-là, ou qui est un peu fatigué de l'information aussi, parce qu'on est dans un monde saturé d'informations dans lequel de plus en plus de monde a une forme de lassitude de l'information, et peut-être c'est une façon de finalement de se réconcilier avec ça, d'aller vers des sujets plus de fond, plus d'enquête, par la force narrative, graphique de la bande dessinée, permettre de rentrer dans des sujets dans lesquels on ne rentrerait pas sinon. Et de fait, la revue a plus de 10 ans d'existence aujourd'hui et a montré qu'elle avait réussi à gagner ce pari-là, parce que c'est un média qui s'est lancé comme ça, sans savoir ce que ça allait donner, sans savoir combien de numéros ça durait. On en est au 44, ça fait plus de 10 ans, donc voilà, je crois que le pari a été rempli.
Et le pari ayant été rempli, la revue dessinée a vu arriver une petite sœur quelques années plus tard, Topo, la revue pour les moins de 20 ans, mais que les plus de 20 ans lisent aussi assez massivement. Je pense qu'on les trouve aussi beaucoup. On parlait avec Blanche des professeurs qui lui parlaient de son histoire de France au féminin. On retrouve aussi beaucoup Topo dans les CDI des collèges et des lycées. Laurence, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la naissance de Topo ?
Alors, moi, je travaillais déjà pour la revue dessinée lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Et on a pris conscience vraiment à ce moment-là qu'il y avait des théories du complot, des fake news qui impactaient déjà beaucoup la jeunesse. Et donc, on s'est dit que Topo, faire du reportage en bande dessinée, était une clé parmi d'autres pour intéresser les jeunes à l'actualité et leur donner un peu des pistes de réflexion. Il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, hein, y en a plein d'autres, mais on trouvait qu'effectivement la bande dessinée, c'était un binôme assez idéal entre le plaisir de la bande dessinée et l'efficacité, le travail, le sérieux du journalisme. Donc Topo existe depuis
2016.
Exactement.
Et on va parler évidemment de l'association, de comment est-ce que vous formez des duos journalistes, autrices et auteurs de bandes dessinées. Peut-être Baptiste, un mot de cette association. Comment est-ce que quand on décide de traiter un sujet dans la revue dessinée, et Laurence vous compléterez évidemment, comment est-ce que on réfléchit à la meilleure personne pour illustrer un sujet? J'imagine qu'il y a mille façons de prendre cette question, mais vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples. Comment est-ce que ça se passe généralement? C'est-à-dire que vous vous dites qu'il faudrait traiter tel sujet, vous contactez un journaliste. J'imagine que maintenant, avec le temps, ce sont plutôt les journalistes qui vous contactent pour traiter en bande dessinée leur sujet. Est-ce que vous pouvez nous entraîner un petit peu dans les coulisses de la revue dessinée?
Oui, alors effectivement, le point de départ, c'est effectivement plutôt le sujet, la part journalistique, soit des propositions de sujets, dont effectivement on en reçoit beaucoup maintenant, soit nous, des idées de sujets qui peuvent émerger à la rédaction en chef. Et donc on part d'un sujet, d'un pitch du journaliste, ou de la journaliste, bien sûr. Et à partir de là, on va effectivement réfléchir à tel sujet, en fonction de sa nature, de quoi il va parler, de ce qu'on va devoir raconter, mettre en scène, figurer. Quel style graphique va s'y prêter. Voilà, quand on a un sujet qui parle d'évasion fiscale et où on va montrer des schémas un peu compliqués, si on prend quelqu'un qui est hyper doué pour dessiner des forêts, c'est pas forcément le match le meilleur, quoi, voilà, et vice-versa. Donc c'est ce genre de questions qu'on va se poser. Il y a des auteurs de bande dessinée qui sont des autrices aussi qui sont très forts pour représenter des choses abstraites, pour qui ont des ressources graphiques, narratives,
Et on va regarder tout à l'heure quelques exemples. Voilà, et je pense notamment à Benjamin Adam.
Benjamin Adam, voilà, qui a fait qui a fait plusieurs sujets pour Topo, pour la revue dessinée, qui a fait l'album d'adaptation de Thomas Piketty, Capital et idéologie en bande dessinée. Voilà, un essai d'économie qui à la base fait 1300 pages. On a fait une BD de 180 pages avec, dans laquelle il y a énormément de schémas d'économie, etc. Mais Benjamin Adam, comme d'autres, il a cette palette graphique-là, qu'il arrive à présenter des choses assez complexes, assez techniques, sur plein de pages, et on n'est pas du tout lassé, quoi. On rentre dedans, on comprend bien. Voilà, et inversement, on va avoir des sujets. On a fait des sujets, par exemple, en partenariat avec une revue, La Salamande, qui est une revue naturaliste franco-suisse. Donc, avec beaucoup on présente beaucoup des éléments de la faune, de la flore, etc. On est plutôt allé chercher un dessinateur comme Jérémy Capana, qui est extrêmement doué pour représenter ces éléments-là. Et voilà, et si on avait inversé ces binômes-là, ça aurait fait des bonnes BD aussi, mais ça aurait peut-être pas été les meilleurs mariages, quoi. Voilà.
Laurence, peut-être avant de nous répondre sur cette question-là, parce qu'on aura des images à montrer justement de quelques exemples et de comment est-ce que avoir un petit décalage, notamment quand il y a des sujets très lourds, ça peut être intéressant. Mais peut-être avant de revenir sur la formation de ces binômes, un mot du choix des sujets. Parce que quand on décide de faire une revue qui s'adresse au moins de 20 ans...
Et les autres.
Comment est-ce que vous décidez qu'un sujet pourra être un bon sujet à réaliser en bande dessinée ? Est-ce que ça arrive que des journalistes, j'allais dire quelque part, se plantent en vous écrivant et vous vous dites « Ah ben non, là en fait, on ne voit pas ce que la bande dessinée aurait apporté à ce sujet-là. Est-ce qu'un bon sujet est un bon sujet, qu'il soit amené à être dessiné ou amené à être publié sous forme de reportage plus classique ? Comment est-ce que vous faites vos choix chez Topo ? »
Alors, il y a beaucoup de questions là. Comment est-ce qu'on choisit un sujet ? Ben déjà... on se dit que ça va intéresser nos lecteurs. On a une palette très large puisqu'on est pour les moins de 20 ans et les autres, donc
pour tout le monde.
Voilà, et donc un peu pour tout le monde, d'autant plus que l'ado est protéiforme, fonctionne en tribus, c'est plein de tribus différentes, plein de centres d'intérêt différents. Donc c'est vraiment le choix de Thomas Cadenne, le rédacteur en chef, et moi, où on se trouve, on va estimer que c'est un sujet intéressant, etc. Je dirais que c'est presque quelque chose qu'on ressent maintenant comme ça. Et sur pourquoi est-ce qu'on intéresse les plus de 20 ans ? Parce que grâce à la bande dessinée, on peut faire des sujets longs, on peut prendre le temps de recontextualiser des informations, on peut dérouler plein de choses. Et le fait qu'un sujet se déroule sur plusieurs planches de bande dessinée, nos grands sujets font 21 planches, et ben du coup, on intéresse aussi les adultes, parce que finalement, avec des mots simples, des textes assez courts dans des bulles, on peut intéresser un panel extrêmement différent. Donc ça, c'était pour la première question. Donc comment est-ce qu'on les choisit ? Au feeling. Parfois, on se plante. Pas tellement du côté du journaliste. Il va y avoir évidemment des sujets plus... on va dire entre guillemets un peu CDI, qui vont plaire aux professeurs de collège ou de lycée, et des sujets qui vont plus plaire à nos abonnés. Là où on s'est planté parfois, c'est effectivement, je dirais, c'est en parlant de la musique, où parfois on n'a pas été très très bon. Je pense qu'on a... voilà. Mais sinon, je pense que réellement, on peut tout aborder avec la bande dessinée. L'important, c'est de choisir le bon dessinateur. Et effectivement, comme le disait Baptiste, tous les dessinateurs ne sont pas bons dans tout. Et la chance qu'on a, c'est qu'on travaille avec des journalistes qui, dès qu'on les contacte en leur disant qu'on veut faire de la bande dessinée, ils sont super excités. Donc on travaille toujours avec des spécialistes, que ce soit de Mediapart, du Monde, de Libération, etc. Ils sont ravis de participer à cette aventure. Donc ça, à chaque fois, on a un certain enthousiasme.
Et on va parler évidemment de comment on réalise un reportage en bande dessinée avec différentes étapes. Clotilde, j'aimerais que vous nous parliez, on évoquait là la question des sujets. Peut-être, j'ai choisi Mamie Matin parce qu'elle était là dès le début de Matin, quel journal, sur ce que vous aviez en tête au début, c'est-à-dire ce qui est passionnant, je trouve, avec cette revue en ligne, c'est qu'il y a une grande diversité des sujets. Là, on est dans quelque chose de très drôle, donc qui met en scène Mamie Matin qui devient conseillère à l'Élysée, mais on a aussi des sujets qui relèvent plus de l'enquête journalistique. Comment est-ce que vous avez imaginé ces différentes séries, l'équilibre qu'il devait y avoir, j'imagine, d'un jour sur l'autre. Comment est-ce que vous l'avez imaginé ? Peut-être comment est-ce que quelques années après son lancement, vous la voyez évoluer ?
Matin, la jeunesse de Matin, on avait une ligne éditoriale qui était très étroite, puisque c'était une proposition que j'avais faite à Dargo, et Matin est né de mon éco-anxiété. Donc au début, la ligne éditoriale de Matin était rigoureusement éco-anxieuse et parlait avant tout d'urgence climatique. Donc on a parlé de permaculture, on a parlé de tout plastique, etc. etc. On a tenu cette ligne, je dirais, pendant une petite année, et c'est sans doute Blanche qui a participé à l'ouvrir, puisque à l'époque où Blanche m'a envoyé un DM, elle me dit « Salut, je suis hyper bien, je me sens en ligne avec cette revue. » Et à l'époque, tu n'avais même pas 15 000 abonnés, je dirais. On s'est rencontrés et Blanche avait déjà démarré son militantisme féministe. Et c'est comme ça que je me suis dit il faut ouvrir la ligne éditoriale de Matin. On interroge un rapport de domination, celui de l'humain sur la nature. Pourquoi est-ce qu'on ne s'amuserait pas à explorer les autres, puisque c'est toujours l'enjeu de cette revue, c'est de s'amuser à réfléchir. Et donc, aujourd'hui, Matin, c'est vraiment une revue de bande dessinée documentaire, de société. On parle toujours d'urgence climatique, c'est sûr, mais on parle aussi d'actu, politique, géopolitique. On parle de culture, on parle de société, on parle de féminisme. J'aime bien me dire qu'on est une revue qui regarde le monde bouger, mais on est quand même très alignés avec Topo et la revue dessinée, en tout cas sur cette ligne.
Complètement, et là on voit quelques exemples justement issus de la revue dessinée de chroniques qui sont régulières, là notamment une série qu'on retrouve dans chacun des numéros ou presque autour du sport, où c'est une autrice ou un auteur de bande dessinée qui va découvrir un sport.
Oui, alors c'est dans la revue, la plupart du temps, c'est des binômes journalistes-dessinateurs, comme je disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a quelques espaces dans les chroniques où on donne un peu carte blanche à un auteur ou une autrice de bande dessinée, le sport, le cinéma. C'est avec un point de vue et ça peut ressembler à... Ça peut ressembler à même parfois la bande dessinée du réel plus classique, je dirais, la bande dessinée d'auteur d'auteur complet, quoi, voilà, ou d'autrice complète, avec vraiment, on suit le personnage qui en fait est l'auteur, l'autrice. Là, c'est Cécile Dupuis, par exemple, qui se met à l'aviron et qui, passe un mauvais moment globalement. C'est parce qu'on essaye aussi un peu de leur faire découvrir un sport qu'ils n'ont jamais fait, à contre-emploi. Enfin voilà, ça se veut un peu être une respiration.
Qui est Marion Montaigne, qui fait 1m55. Et qui est une petite crevette devait faire de l'haltérophilie.
Thibaut Soulcier qui a fait de la natation synchronisée.
Il fait 1m95
immense qui doit faire un bon 90 kg. Et il a fait crossfit aussi, et depuis il est devenu complètement addict. Il est tombé dedans les deux pieds devant. Donc on essaye aussi un peu de s'amuser, mais c'est vrai que, alors c'est pas que l'urgence climatique qui a été la ligne éditoriale de la revue dessinée et de Topo non plus d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est des sujets, voilà, on est aussi effectivement sur des sujets, on interroge beaucoup les questions de société fortes comme celle-là, quoi.
Et donc, Clotilde, j'essaye de suivre un tout petit peu, mais en fait, on raconte beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des choses dont on parle qu'on va revoir tout à l'heure à travers les images, mais on parlait de duos qui sont parfois formés. Oui. Et là, en l'occurrence, ça revient un petit peu à ce qu'on disait avec Blanche sur cette histoire de l'histoire de France au féminin. Là, on est à l'école des lettres et les autrices et auteurs mettent en scène les grands noms de la littérature en les imaginant à l'école tous et toutes ensemble.
Oui, alors donc cette série s'appelle À l'école des lettres. Elle nous accompagne depuis deux ou trois ans sur le fil de Matin. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur cette série, Sonia?
Raconter un petit peu l'association, puisqu'on parlait des binômes.
D'accord.
Et de raconter comment est-ce que ça a intégré finalement Matin avec cette idée, effectivement, là on est
d'ouvrir
sur...
D'ouvrir la ligne. L'auteur de cette série, le scénariste de cette série s'appelle Popézi. Popézi est prof de français, mais sous anonymat. Il se trouve qu'il a 110 000 abonnés sur Twitter et qui me faisait beaucoup rire. Et puis un jour, il a tweeté « Je cherche un éditeur de BD pour un projet atypique ». Donc je pense qu'il l'a tweeté 12 secondes plus tard, j'étais dans ses DM. « Salut, j'aime bien ton travail. » Et moi, je suis la rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle Matin. Et dans la seconde, il m'a répondu « J'adore Matin ». Ah bon ? À l'époque, on avait 20 000 abonnés, donc j'étais contente qu'ils connaissent. Et donc on s'est appelés. Et il m'a envoyé le scénario de l'école des lettres. Ça coïncide avec ma rencontre avec Blanche aussi, où j'étais en pleine interrogation sur cette ligne. On ne peut pas la garder aussi étroite, même si c'est très ample comme sujet. Et puis, il m'a donc proposé ce scénario et je me suis dit, je ne peux pas décemment ne pas publier L'École des Lettres. Et à l'époque, donc je me suis marrée en lisant le scénario. Il m'avait proposé un dessinateur qui me semblait pas, j'imaginais vraiment quelque chose d'extrêmement kawaii, extrêmement adorable en fait, parce que c'est Victor Hugo qui est dans la cour de récré avec Balzac et Zola, et qui sont des enfants et on outre leurs caractéristiques d'auteur, d'écrivain, d'écrivaine du 19e siècle pour en tirer des gags que tout le monde peut comprendre parce qu'on est tous plus ou moins familiarisés avec ces auteurs et ces autrices. Et donc j'ai proposé ce projet à Maïté, qui en lisant le scénario a fait comme moi, elle a fondu, elle a dit il me le faut. Et voilà comment
elle avait déjà fait une série.
Elle avait fait une série toute seule sur Matin, ouais.
Et un autre exemple, là, on parlait d'actualité tout à l'heure.
Ouais. Alors lui, c'est Mathias Miko, son nom d'auteur, et qui propose une série. Donc ça, c'est de la géopolitique. Donc c'est vraiment de l'actu chaude et il chronique la géopolitique contemporaine tous les 10 jours sur Matin. En imaginant qu'on habiterait tous dans un même immeuble et que chaque appartement serait un pays. Donc le président du syndic, c'est Joe Biden. Poutine veut annexer la salle de bain de Volod. Et donc voilà, en tirant le fil de la copropriété, il raconte de façon hyper juste la géopolitique contemporaine.
Et j'imagine que comme Baptiste et comme Laurence, vous recevez aujourd'hui beaucoup de projets.
Oui, je reçois, j'ai malheureusement moins de temps pour aller chercher et farfouiller parce que c'est le contrepoint du succès. Alors, est-ce que c'est le succès, c'est que 140 000 abonnés, ce n'est pas 2 millions. Hein. Mais oui, c'est vrai que je reçois énormément de projets et malheureusement, j'en refuse plus que j'en accepte parce qu'il n'y a que 365 jours par an.
Et on va parler dans quelques instants des livres que vous publiez et aussi peut-être revenir sur ce que racontait Blanche de cette idée de communauté et de comment est-ce que sous les postes de Matin, il y a toujours énormément de commentaires. Mais j'aimerais qu'on revienne à la réalisation très concrètement d'un reportage en bande dessinée. Laurence, vous m'avez envoyé un exemple pour nous montrer comment est-ce que justement on suit le fil, c'est-à-dire qu'on a cette enquête Made in Bangladesh. Vous nous montrez le premier mail, on évoquait tout à l'heure des journalistes qui peuvent proposer des sujets. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce reportage qui quelque part raconte l'histoire de vos reportages d'une manière plus générale?
Alors j'essaie de vous le raconter en essayant de parler aussi vite que Blanche à sa bague pour
non, pas.
Donc j'ai reçu un mail d'une journaliste que je ne connaissais pas qui me parlait de l'effondrement du Rana Plaza en 2013 à Dhaka au Bangladesh. Et cet effondrement a fait partie un peu des premières prises de conscience occidentales que vraiment les conditions de travail étaient déplorables. Et donc même toutes les grandes marques, puisque tous nos t-shirts à 98% sont fabriqués au Bangladesh, toutes ces marques, Petit Bateau, Camailleux, Zara, etc., ont signé The Accord Original promettant que les conditions de travail allaient s'améliorer. Et donc ça démarre comme ça. Il y a une journaliste qui me dit « je suis au Bangladesh et je peux faire un sujet sur est-ce que les conditions de travail ont vraiment évolué depuis l'effondrement de cet immeuble. » Donc, ça m'a intéressée. Donc, comment les choses démarrent? Eh bien, déjà, la journaliste fait son enquête. Et non seulement elle fait son enquête, mais aussi elle la rédige, elle l'écrit. C'est-à-dire que vraiment, l'enquête se retrouve sur un support papier et elle est vraiment bien écrite. Évidemment, comme on fait du reportage en bande dessinée, il y a de la documentation visuelle que le journaliste est chargé de fournir au dessinateur. Parce que le dessinateur n'a pas le temps de... Non, on n'a pas les moyens de faire partir le dessinateur au Bangladesh, plutôt. Donc, le journaliste vraiment fournit toute une documentation. Là, on avait beaucoup de chance. La journaliste était partie avec une photographe qui faisait des très belles photos. Mais donc, il y a toute une documentation visuelle qui est fournie aussi au dessinateur. En l'occurrence, c'était une dessinatrice, Carole Morel, qui, là, à ce moment-là, ne se met pas tout de suite à dessiner d'un seul coup l'enquête. D'abord, il y a des croquis préparatoires. Il y a tout un travail autour de comment est-ce qu'elle va dessiner des ambiances de rue, ses personnages, etc. Donc il y a toute une recherche graphique et puis une recherche de couleurs. Il se trouve qu'à Dhaka, c'est une ville polluée, il fait très chaud, il y a un très fort taux d'humidité. Donc elle a mis un petit jus, un peu sépia pour montrer un peu cette ambiance poisseuse. Et puis ces deux jeunes filles qui sont interrogées, qui sont des ouvrières à Dhaka, servent de fil rouge. Et donc la Carole Morel a décidé de les représenter. Elle a un dessin de toute façon très, très réaliste. Hein. Donc, elle fait des recherches graphiques, bien sûr. Et à partir de là, une fois que les recherches graphiques sont faites, eh bien, elle fait un découpage. Comme on a des sujets très longs sur plus de 20 planches, là encore, elle ne va pas tout de suite commencer à dessiner dans des cases, etc. Elle va faire des... Alors, ça peut être des dessins plus patates. Là, elle a fait un dessin assez, assez fouillé. Mais elle étale son histoire sur 21 planches pour montrer un peu comment est-ce qu'elle va dérouler l'histoire. Parce que finalement, il n'y a que la dessinatrice qui va savoir une action, si elle va mettre 2 cases, 3 cases ou 10 cases... pour illustrer quelque chose. Et donc, voilà, elle découpe le texte et le déroule sur 21 planches. Et donc là, on démarre avec les 2 premières planches du storyboard, où on le voit, on est dans Dakar, il y a beaucoup d'embouteillages, et puis il y a 2 hommes qui sont dans une voiture, hein, qui se retournent face caméra, et qui racontent un peu Dakar, et puis ils passent devant l'immeuble du Rana Plaza, et ils racontent l'effondrement de cet immeuble. Mais moi, ça ne me plaisait pas, parce que, si je remets juste, si je peux juste, voilà, ça me gênait, parce que on voit l'effondrement de l'immeuble, certes, il est au milieu, mais il est malgré tout dans une petite case au milieu de la grille, comme ça. On ne lui donnait pas assez d'importance, alors que le postulat de départ, c'était vraiment, est-ce que depuis l'effondrement de cet immeuble, les choses ont changé? Du coup, j'ai demandé que cette petite case, comme ça, prenne une vraie double page, où on voit vraiment, donc en bleu sont mes corrections, où on voit vraiment l'immeuble, les ouvriers qui arrivent le matin, qui remarquent les fissures, le chef d'atelier qui leur dit c'est pas grave, faut travailler, parce que c'est vraiment, les survivants ont raconté vraiment les choses comme ça, l'électricité qui s'éteint, puis l'effondrement qui de l'immeuble, avec en dessous encore le propriétaire de l'immeuble, qui était un homme politique véreux, entouré par la police. Bon, il n'a même pas fait de prison, ce n'était pas vraiment l'angle du sujet. Donc, je lui ai demandé de barrer ça, et donc de faire une pleine page sur l'immeuble qui s'effondre. Et c'est effectivement voilà, ce à quoi on est arrivé. Alors, je lui demande, mais c'est aussi en ping-pong, bien évidemment, avec la journaliste qui vérifie toutes les étapes avec moi, qui intervient. Il y a un vrai ping-pong qui se fait entre le journaliste et le dessinateur. Mais ça, toutes ces étapes, c'est pour vraiment montrer à quel point le dessinateur ne se lance pas d'un seul coup.
Non, mais justement, moi, j'ai une question à ce sujet-là, et pour Baptiste également, c'est qu'un journaliste, une journaliste, n'est pas une ou un scénariste de bande dessinée. Est-ce qu'il y a un travail aussi avec les journalistes en amont sur justement le calibrage? Parce que pour avoir écrit des toutes petites choses, je sais bien qu'on a du mal au début à mesurer ce qui peut donner 21 pages, par exemple. La première fois que j'ai écrit quelque chose, ça devait faire 5 pages. Le dessinateur m'a répondu en me disant qu'il ne pouvait pas en faire moins de 80 pages. Donc non, il allait falloir réduire un tout petit peu. Alors j'imagine que malgré tout, ils ont l'habitude de l'écriture de reportage, et c'est rare qu'ils aient des espaces extraordinaires dans les journaux. Mais est-ce qu'il y a aussi un travail d'éducation à la bande dessinée quelque part? Est-ce que vous leur envoyez les reportages précédents pour leur montrer voilà quel est le rythme dans une bande dessinée, ou en tout cas, même si c'est différent à chaque fois selon le dessinateur et la dessinatrice, mais voilà, un petit peu guider en amont pour pas que le dessinateur ou la dessinatrice se retrouve avec une montagne de documentation et un scénario qui pourrait faire une bande dessinée complète? Comment est-ce que vous travaillez avec les journalistes?
Je vais répondre. Vas-y.
Oui, bien sûr, on donne un calibrage, parce que de toute façon, les journalistes écrivent toujours trop long, donc c'est la base. C'est la,
pour très bons élèves.
C'est la base du métier, c'est que tu leur dis 10 000, ils rentrent 12 000, ça c'est toujours, c'est vrai pour tous les journalistes, donc voilà. Donc comme on est nous-mêmes journalistes, on donne un peu en dessous de la vérité, comme ça on a le bon chiffre à la fin. Donc on donne oui, c'est ça qu'il faut faire. On donne le bon calibrage.
Il faut que vous disiez non, il n'y a que 3 cases, comme ça vous en aurez peut-être 9.
Et oui, bien sûr, parce qu'on a, on fait attention à ça, et non, plus que sur le calibrage, parce qu'après nous, on a l'habitude et on met les mains dedans, on va couper. Enfin, de toute façon, on n'enverra pas un dessinateur ou une dessinatrice au casse-pipe avec un texte trop long, ça c'est pas possible. Donc on va forcément intervenir dessus. Il y a un enjeu aussi autour du texte lui-même, au-delà de sa longueur. Parce qu'évidemment, là, tout à l'heure on voyait sur les slides, il y a un texte qui ressemblait à un article en fait finalement. Évidemment, une bande dessinée, le texte tel qu'il est imprimé sur une bande dessinée, c'est de la voix off, avec des phrases très courtes dans des cartouches les plus petits possibles. et du texte à la première personne, du dialogue dans des bulles, dans des phylactères. Donc ça ne ressemble pas à un texte comme celui-là. Et, or, les journalistes ne savent pas écrire autrement que des textes comme ceux-là, et les dessinateurs ne savent pas faire autrement que des cartouches avec du test court et des phylactères. Donc il faut qu'à un moment, il y ait un des deux côtés, enfin, il faut que ça se rapproche, quoi, voilà. Donc des journalistes qui n'ont jamais fait ça avant, bah, c'est compliqué de leur demander de s'improviser scénariste de bande dessinée du jour au lendemain. Les dessinateurs, les dessinatrices qui n'ont jamais fait de sujet avec des journalistes, c'est compliqué de leur demander de savoir adapter un texte comme celui qu'on voyait à l'écran, comme ça, pouf, de s'improviser, adaptation comme ça. Donc parfois, quand ils ont un peu cette expérience-là, ils y arrivent. Et nous, Laurence, moi, Amélie, Thomas, les autres rédacteurs et rédactrices en chef des deux revues, on a cette compétence et ce rôle-là aussi de faire ce travail d'adaptation sans évidemment du tout trahir le sens, le déroulé, etc. Mais de faire un peu ce travail de go-between entre d'un côté le journaliste qui fait son texte bien sagement comme il sait faire et de l'autre le dessinateur ou dessinatrice qui va s'arracher les cheveux si on lui donne pas un peu de voilà, si on n'adapte pas au passage, quoi. Donc pour moi c'est plus là-dessus qu'est l'enjeu et les potentielles incompréhensions entre un dessinateur et un journaliste, parce que en vérité la longueur, de toute façon nous déjà on laisse même pas le dessinateur la dessinatrice le voir si c'est trop long, quoi. C'est on renvoie la copie d'abord.
Clotilde, un mot rapidement, parce que vous disiez ah mais c'est ça qu'il faut faire, il ne faut jamais dire la vérité aux dessinateurs et dessinatrices ni sur les dates de rendu ni sur la longueur, mais justement vous, comment est-ce que vous travaillez avec les dessinateurs et dessinatrices de matin, puisque vous êtes rédactrice en chef, qu'il y a des séries où c'est un épisode par semaine, donc c'est quand même un rythme assez, assez soutenu. Comment est-ce que vous travaillez avec les uns et les autres? Est-ce qu'ils vous envoient justement un scénario, un découpage? Est-ce que vous découvrez les cases finalisées et éventuellement il y a des ajustements après? Comment est-ce que vous travaillez?
Alors, jamais les cases finalisées et ensuite on travaille. Non, d'abord une intention de projet. Si jamais on signe une série en 12 épisodes, je reçois une liste d'épisodes et puis ensuite on ajuste, on affine en fonction de la façon dont on a envie de traiter tel ou tel sujet. Ensuite, il y a des boards, exactement le même. On n'a pas réinventé la poudre au prétexte qu'on est sur Instagram. Un déborde que je relis, que je corrige, que j'ajuste et que je valide ou pas. Et ensuite du def. Et après, je disais, ah, c'est ça, parce qu'il m'arrive de travailler avec des journalistes aussi. Et c'est vrai que les strips des journalistes sont souvent très bavards et que je passe une énergie folle à proposer des suggestions de réécriture et que en face ça génère toujours un peu des tensions. Non mais c'est très très important que ce mot soit là à ce moment-là, parce que, et en fait on est quand même sur Instagram et les gens snack sur Instagram, ils vont vite, ils veulent du contenu rapide, et même si notre promesse c'est quand même de faire du contenu assis et solide et réfléchi, si on veut être lu à un moment, il faut un peu tailler dans le vif, quoi.
Surtout que l'image donne elle-même énormément d'informations. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le texte, hein, mais il y a aussi l'image qui...
Ouais. C'est-à-dire, oui, il y a un ajustement aussi en temps réel, j'imagine, que ce soit sur Instagram ou dans la revue dessinée et Topo, c'est qu'on peut revoir un scénario, mais on ne peut revoir définitivement qu'avec le découpage, parce qu'il y a des choses qu'on peut retirer après du scénario, si, enfin en tout cas du texte, si finalement c'est dans l'image.
Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes talents, souvent des auteurs, des autrices qui n'ont jamais fait de BD et qui commencent, et donc qui ont tendance à faire un peu ces erreurs de jeunesse, d'utiliser le dessin pour redire illustré, ce qui a été dans le texte, exactement. Et où bah, là c'est tout un travail de pas d'éducation, mais enfin si c'est le mot, quoi, de leur dire bah, voilà, c'est d'apprentissage, voilà, à ce que peut permettre, c'est tellement énorme en fait ce que peut permettre le dessin pour enrichir un texte.
Laurence, on parlait du choix du dessinateur ou de la dessinatrice tout à l'heure, et on a un exemple là quand je disais de sujets plutôt costaud. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce témoignage dessiné?
Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai une journaliste qui était partie en Arabie Saoudite et qui avait recueilli deux témoignages, celui d'une jeune fille et d'un jeune homme, qui racontaient la difficulté de se rencontrer entre filles et garçons, de se draguer dans un pays où la mixité est interdite, plus ou moins. Et ces deux témoignages étaient vraiment poignants et assez pesants, extrêmement intéressants, parce que c'est finalement assez difficile de connaître suffisamment la population saoudienne pour recueillir des témoignages, surtout de jeunes comme ça. Mais c'était pas du tout des témoignages léger. Et bon, c'était, comme c'était assez plombant et qu'on est une revue et qu'on s'adresse à des jeunes, on ne veut pas plomber complètement nos lecteurs. Et en même temps, on veut évidemment bien dire la vérité. Et là où ça a été extrêmement intelligent, c'est pas moi qui ai choisi ce dessinateur-là, mais on a choisi Léon Marais, qui avait un regard extrêmement qui a apporté une touche extrêmement légère. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans les bulles, toutes ces citations sont vraiment extraites, mais telles quelles des témoignages. Mais il a un dessin très drôle, très marrant, et ça apporte une autre tonalité. C'est ça ce qui nous intéresse d'ailleurs énormément, c'est ce regard croisé du journaliste et du dessinateur, où c'est vraiment du reportage, enfin je veux dire, tout est vrai, tout est mais avec une réinterprétation personnelle qui apporte énormément de choses. Et là, Léon Marais, dans ce sujet sur l'Arabie Saoudite, a été fabuleux.
Et là, on voit différents exemples et des choses qu'on avait dites un petit peu tout à l'heure, de comment est-ce que le dessin permet de vulgariser, comment est-ce que le dessin permet de rendre compte de... Là, par exemple, quand on voit quelqu'un qui tire sur une autre personne, le dessin permet de le raconter d'une manière plus douce.
Distancielle, distancielle, oui, avec une certaine
exactement,
distance.
Ouais. Ouais. Et aussi, le dessin permet évidemment des allers-retours dans le temps et peut jouer justement avec cette notion. Je passe un peu vite parce que je voudrais qu'on parle aussi des publications papier et qu'on revienne sur ce qu'on disait déjà un petit peu tout à l'heure, mais quand même de ce que permet le dessin, de ce que permet de la bande dessinée, de ce que vous observez. Et je pense notamment, Clotilde, vous parliez des débuts de Matin. Maintenant, Matin, c'est une communauté qui grandit de plus en plus. Et comment est-ce que vous observez justement la diffusion de ce savoir ? Tout à l'heure, Blanche disait démocratisation du savoir, c'est vraiment ça, de proche en proche, comment est-ce que des gens, parce qu'ils vont partager un épisode, ben d'un seul coup, il va y avoir d'autres personnes qui vont suivre, et de comment est-ce que eh bien, c'est une communauté active. Je le disais encore une fois, il y a beaucoup de commentaires sous chacun des épisodes.
Alors nous, on a une communauté très, très sympa. Bon, il y a toujours des gens énervés, mais on a quand même une communauté plutôt avec qui on se sent bien et qui est plutôt bienveillante, pour utiliser un terme à la mode. Et puis là, comment on grandit ? Les gens parlent, et puis c'est comme ça que on obtient petit à petit de plus en plus d'abonnés. Et puis aussi, il y a Julie qui est là, qui est la community manager de Matin, et qui est là pour faire grandir la communauté et nous faire connaître aussi à droite et à gauche. Et c'est vrai que c'est exactement le mécanisme que disait Blanche. Ce principe de commentaire, c'est l'équivalent du courrier des lecteurs d'une revue à une autre époque, quoi, hein. À l'époque de Pilote, c'est ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça c'est formidable. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des livres aussi, avec le nombre de likes, le nombre de commentaires. On sait qu'il y a une demande. Et c'est comme ça que c'est grâce à ça qu'est née la collection Matin.
Et comment est-ce qu'elle a accueilli cette collection ? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose d'assez contre-intuitif, au tout départ en tout cas, de se dire que ça a été créé justement, Blanche le disait, avec les strips, c'est une gymnastique particulière, il y a l'idée d'avoir une chute. Alors on a vu un petit peu des exemples de comment est-ce que les pages notamment de Mythe et Meuf étaient montées. Qu'est-ce que vous observez ? Que c'est vraiment pas qu'à la fois des personnes qui ont peut-être aimé la série sur le compte et qui ont envie de l'avoir en main, ou peut-être qui ont envie de l'offrir. Tout à l'heure, une personne demandait où est-ce qu'on pouvait suivre Blanche. Il avait pas Instagram, ça permet de le diffuser autour de soi. Comment est-ce qu'elle est accueillie, la collection, et qu'est-ce que vous observez que ça vient compléter ?
Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un autre public, parce qu'on est éditeur de bande dessinée avant tout, et ce qu'on fait, c'est des livres. Ces ouvrages-là sont hybrides, en fait, parce qu'ils mélangent du texte et de l'image, et ils prennent l'exact contrepoint de ce qu'on fait sur Instagram, à savoir des strips qui se snackent et qui doivent se lire en moins de 8 secondes. Là, on prend les strips et on les étaye de textes, d'articles longs et qui viennent les compléter, qui viennent les expliquer. Et puis, il y a des strips inédits. Enfin, voilà, c'est vraiment, en gros, le contenu de Matin, ce snack. Et là, avec ces livres-là, on relit Matin, mais on s'assoit et on prend le temps d'eux. Et la collection est bien accueillie. Et puis, on parle aussi bien de permaculture que de racisme ou que de le cœur des hommes, c'est un sujet sur la
contraception.
Merci, masculine. La contraception masculine. Donc vraiment, on balaye tellement de sujets qu'en vérité, chaque album vit sa vie indépendamment du reste de la collection.
Est-ce que montre les albums physiques et je me tourne vers vous, Baptiste. C'est encore une fois ce qu'on disait au tout début de comment est-ce que finalement, avec le dessin, un reportage peut toucher plus de personnes, ou en tout cas différemment, peut rendre un sujet qui est peut-être plus ardu à comprendre. On a vu passer, je vais les repasser, les planches de Benjamin Adam, l'adaptation de Piketty, mais aussi comment est-ce que sur un sujet comme les algues vertes, dont on, finalement on ne parlait pas énormément, comment est-ce que finalement un reportage en bande dessinée a permis de sensibiliser un nombre extrêmement important de personnes ?
Complètement, c'est l'exemple le plus emblématique parce que le travail journalistique d'Inès Leroux sur les algues vertes et le travail qui a permis effectivement à cette question-là d'exister dans le débat public aujourd'hui, d'être nationalement très connue maintenant. Et c'est un travail qu'elle a développé par deux moyens, une série d'émissions radio sur France Culture et un sujet à l'origine dans la revue dessinée, dans le trimestriel, sujet d'une quarantaine de pages. Et en fait, comme il y avait encore plein d'autres choses à raconter, que la publication de ce premier sujet aussi lui a permis de recueillir encore davantage de matériel de terrain et d'enquête pour son travail journalistique, on a derrière, enfin je dis on, mais j'étais pas là, j'étais pas encore arrivé, mais la revue dessinée a décidé de faire derrière un album complet, c'est-à-dire de vraiment, non plus que ce soit un sujet publié de 25-30 pages dans la revue dessinée, mais vraiment un album, une enquête, un binôme journaliste-dessinateur, Inès Leroux, Pierre Vanov, pour développer une enquête sur toute la longueur de l'album. Et c'est effectivement quelque chose que Topo et la revue dessinée font maintenant depuis quelques années. Donc Capital et idéologie, bon, c'est un tout petit peu particulier parce que c'est l'adaptation d'un essai d'économie, mais c'est le même principe avec un binôme journaliste-dessinateur qui va proposer sur la longueur d'un album l'adaptation donc de l'essai de Thomas Piketty. On a fait des hors-séries avec d'autres médias, par exemple avec Mediapart. Voilà, on essaye comme ça d'aller chercher des publics différents, comme on le fait avec la revue tous les trois mois, mais sur des thématiques. Par exemple, Vertige, qui est le dernier gros album qu'on a sorti, c'est des sujets qui ont déjà été publiés dans la revue dessinée sur la crise écologique et climatique, mais qu'on a rassemblés ensemble dans un livre qui donc a cette problématique-là. Et on se dit que par ce sujet-là, par un album qui tournait vers ce sujet-là, on va aller trouver un public que ce sujet-là intéresse, que le traitement de ce sujet-là par de l'enquête dessinée peut intéresser et qui peut-être n'a pas remarqué que la revue dessinée traitait de ces sujets-là ou même que la revue dessinée existait tout court. Et du coup, voilà, c'est une façon d'aller proposer notre travail, notre façon de travailler, notre savoir-faire via des albums thématiques, des enquêtes précises qui méritent, typiquement les algues vertes, que voilà, on en parle davantage et le journalisme en bande dessinée peut permettre de faire ça.
Laurence, peut-être un mot. Topo a publié notamment un album autour du 11 septembre. Il y avait aussi cette idée, parce qu'on parle de, même si c'est pour les 20 ans et les autres, les moins de 20 ans et les autres, que, j'allais dire, pas on oublie vite, mais il y a quelque chose où nous, je pense que toutes et tous ici, on se souvient exactement où on était le 11 septembre. Et maintenant qu'on intervient dans des collèges ou même des lycées, on se rend compte qu'effectivement, eux, ils n'étaient pas nés.
Alors le 11 septembre a été coédité avec Dargo, Topo et Dargo, et c'est Baptiste Boutier qui était le journaliste du 11 septembre. Donc je vais peut-être te laisser répondre à la question. Du coup, c'était mon idée, c'était pour rendre hommage aux, c'était quoi, c'était les 20 ans. Et c'est vrai que nous on se souvenait tous de où on était ce jour-là, et puis nos lecteurs, nos abonnés, ils n'étaient pas nés. Était encore en couche. Et donc c'était une façon de... Parce qu'on s'est aperçu aussi que les ados, finalement, voyaient ce que c'était, les deux tours qui s'effondrent, ils savaient de quoi ça parlait, grosso modo. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait autant d'avions, que l'attentat avait touché autant d'avions, ou alors ils ne savaient pas qui était George Bush, par exemple. Donc, parce que voilà, c'est très disparate, parce que pour eux, c'est de l'histoire ancienne. Contrairement à nous, et donc c'était assez important de faire un album là-dessus. Et là, on est en train de faire un autre album sur les influenceurs, pareil en coédition avec Dargo, sur les influenceurs et cette influence. Est-ce qu'on est sous influence tous ou pas, etc. Donc nous aussi, on se met un peu à faire des albums de temps en temps.
Baptiste, un mot de ce reportage dessiné?
Un jour, Laurence m'envoie un mail et me dit, et après on se voit, et elle me dit c'est une catastrophe, les jeunes savent pas qui est George Bush, il faut faire un album sur l'an septembre. Non, bah oui, c'est moi, bien sûr. En fait, c'est un album qui raconte le 11 septembre 2001 par plusieurs angles de vue. Voilà, on est dans les tours, on est avec les pompiers qui montent dans les tours, on est avec George Bush qui tourne en rond toute la journée, on est avec une photographe qui est coincée au pied des tours et puis qui voit les tours s'écrouler. Et puis, on est avec une Française de 13 ans, Juliette, qui est 13 ans, qui est l'âge que j'avais en 2001 quand les tours se sont effondrées, 13-14 ans. Et du coup, en fait, voilà, ce personnage permet au lecteur ou à la lectrice d'adolescent aujourd'hui de se projeter, de s'identifier, de comprendre ce que c'était le 11 septembre 2001, ce jour-là, quand on l'a vécu, y compris d'être jeune à l'époque, de vivre ça, d'essayer de piger ce qui se passait en même temps que ça se passait, de ce que c'était aussi le...
Et de comprendre aussi à quel point le monde a basculé depuis, pardon.
Non, et alors avant même ça, déjà de comment on recevait les infos, parce que ça a beaucoup changé aussi, et c'est pas quelque chose dont on a forcément bien conscience quand on a moins de 20 ans aujourd'hui, que en 2001 il y avait déjà les téléphones portables, mais il y en avait pas beaucoup, il y avait pas internet dessus, donc tout ça permet de remettre ça en scène. Et puis effectivement, la dernière partie de l'album, c'est 20 ans de géopolitique en accéléré, et qui raconte comment les 11 septembre, c'est un espèce de domino qui tombe, et qu'il y a plein d'autres dominos qui sont tombés par la suite, les guerres en Irak, en Afghanistan, Guantanamo, le Patriot Act, les attentats, enfin, l'État islamique, les attentats de par des terroristes de Daesh en France et ailleurs. Enfin voilà, tout ça, c'est des dominos qui en fait sont directement reliés au 11 septembre. Et pour expliquer aux plus jeunes aujourd'hui que le monde dans lequel on vit encore maintenant, il est très directement lié à ce qui s'est passé ce jour-là.
Peut-être parce que je vois que là encore le temps passe très vite. Clotilde, un petit mot d'une autre série encore qui est Switch, qui était là. Presque dès le début, cette autrice, dès le début de Matin, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un mot ?
Alors, Switch, c'est la petite sorcière de Matin, qui, elle, est arrivée sur le fil de Matin parce qu'elle a répondu à son éco-anxiété en se rapprochant de la nature et en devenant sorcière, en fait. Et donc, ça a été amusant de la suivre parce qu'au début, c'était vraiment « je vais chercher de la sauge dans mon jardin et je fais un câlin aux arbres de temps en temps ». Et petit à petit, elle a muté en sorcière, elle s'est intéressée à l'astrologie, au tarot, etc. Et bon, voilà, là, Eva Roussel en a fait une série sur Matin qui sort en livre chez Dargaud le 22 mars. Et qui raconte avec fraîcheur son parcours d'éco-féministe, puisque c'est ça qui l'amène à la sorcellerie, son éco-anxiété, son féminisme, et à la croisée de ces deux combats, il y a l'éco-féminisme qui a été porté par l'essayiste Mona Chollet au début des années 2010. Et voilà, en voilà la proposition fraîche et légère de Eva Roussel qui sort en librairie le 22 mars.
Peut-être un dernier mot, parce qu'il nous reste quelques minutes à peine, mais on l'a dit, mais j'aimerais qu'on le dise encore, c'est comment est-ce que finalement, on a vu des styles graphiques extrêmement différents tout au long de cette rencontre, et c'est comment est-ce que vous avez le sentiment, encore une fois, que la bande dessinée, au-delà du côté, et ça on l'a dit, du fait que ça peut permettre de rendre des concepts qui peuvent être ardus à lire sous forme d'enquête ou bien des essais, on a évoqué Thomas Piketty, de comment est-ce que vous voyez que le dessin aussi apporte, j'allais dire, une humanité peut-être aussi en plus. Alors bien évidemment, il y a des reportages qui peuvent être accompagnés de photos, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'incarnation, quelque chose qui est dans l'immédiateté. C'est l'image, évidemment, mais comment est-ce que vous avez le sentiment que, à travers ces reportages en bande dessinée, eh bien, vous contribuez à porter un regard sur le monde qui contribue à faire avancer aussi la pensée. C'est ce qu'on évoquait avec Blanche. C'est une question, j'en ai bien conscience, très très large pour répondre en quelques minutes qui nous restent, mais j'aimerais juste que, pour terminer cette rencontre, on réaffirme la puissance de la bande dessinée pour interroger le monde d'aujourd'hui. Clotilde.
Et ben moi je crois que chaque artiste pose son âme dans son dessin, et que, alors Zola le fait aussi dans son texte, mais c'est juste moins objectivement tangible et visible.
On parlait
de Zola tout à l'heure, et que le texte est noir et que c'est un enchevêtrement de lettres, et qu'il faut se plonger dedans vraiment pour sentir l'âme de l'auteur. Et là, avec le dessin, soit on est happé, soit on l'est pas. Il y a le choix des couleurs, il y a le choix de la compo, il y a le choix de la grâce parfois, et parfois de l'âpreté, et elle est immédiate, parce que c'est ça la force de la bande dessinée.
Moi, ce que je trouve fabuleux avec la bande dessinée, c'est que en fait, je pense qu'on est très 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 loin encore d'avoir exploré tout ce qu'elle est capable de faire. Énormément de gens se sont mis à lire de la bande dessinée ces 15-20 dernières années, peut-être même dans la salle il y en a, donc, qui ne lisaient pas du tout de bande dessinée il y a 15-20 ans. C'est le cas par exemple de mes parents qui s'y sont mis et en fait il y a vraiment un public qui découvre ça et au niveau de la création des auteurs et des autrices, il y a énormément de choses aussi qui se font, qui se réinventent. Instagram a amené d'autres styles, d'un peu partout il y a des styles qui poussent, des genres, et pourtant la bande dessinée est un art beaucoup plus ancien que ça, mais qui en fait a longtemps exploré peut-être que quelques couloirs de piscine, et d'un coup on se rend compte qu'en fait c'est pas une piscine, c'est un immense océan, et qu'il y en a énormément, il y en a des millions des couloirs, et donc en fait je crois qu'on est très loin d'avoir fini d'arpenter ça. On est très loin d'avoir vu tous les styles graphiques possibles en bande dessinée et qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Et nous, ici, on fait de l'information en bande dessinée et c'est un outil formidable pour faire de l'information, mais il n'y a évidemment pas que ça dans la bande dessinée. Donc je crois que c'est ce que je trouve le plus fort, c'est qu'en fait, même si c'est un art qui est installé depuis longtemps, en fait, c'est par rapport à d'autres arts qui peut-être sont un peu plus à bout de souffle ou un peu en manque de renouveau, la bande dessinée est plutôt un art qui se porte très bien, qui est en pleine explosion de ses variétés possibles, quoi.
Oui, puis moi je pense aussi qu'on est dans un monde d'images de plus en plus, avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'image est de plus en plus importante. Enfin, les jeunes d'ailleurs savent la lire beaucoup mieux que beaucoup d'adultes aujourd'hui. Donc la bande dessinée, c'est de l'image, ça me paraît tout à fait normal qu'on soit dans ce mouvement-là.
Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont une toute petite question pour Clotilde, Laurence ou et Baptiste ? Non. Merci infiniment à tous les trois.
Merci
à vous toutes et tous d'avoir été avec nous et je vous encourage évidemment vivement, si vous ne les avez pas encore lus, à découvrir Topo, la revue dessinée, et vous abonner au compte Matin, quel journal. Bonne soirée à tous et à toutes.
Bonsoir, merci.